Deuxièmement, dans Voirie quartier apaisé, page 28, vous parlez donc de Voirie, des quartiers apaisés, qu'est-ce, sachant quand même qu'il y a 1 million d'euros 2017-2018. Et bien sûr aussi, autre opération d'équipement, c'est 10 fois plus, mais il y a pas beaucoup d'estimations. Voilà.
Monsieur de Rambach.
C'est bon. Je voulais juste poser 2 petites questions à M. Jeunet. La première concernant le détail, si vous voulez, du financement. Est-ce qu'on pourra avoir plus de précisions, par exemple, sur un sujet qui nous préoccupe tous ici? Je pense à le centre commercial Charras, par exemple, sur le cœur de ville. Et deuxième chose, sur la place Herald également. Il y a un financement, mais je voudrais savoir pourquoi, en fait, il n'y a pas eu l'accessibilité, parce que je pense que vous l'avez vu tous ici, il y a un petit rebord, en fait, sur la place Hold. Et est-ce que c'est possible, justement, de réaménager ça? Ça coûte rien, mais... Voilà, c'est ma question, monsieur.
Monsieur Gimonet, vous voulez reprendre les différents...
Oui, moi j'avais aussi quelques remarques et quelques questions suite à l'intervention de M. Thomas. Dans ce débat d'orientation budgétaire, on ne voit pas apparaître votre politique en matière de sport, et notamment quels sont les critères d'attribution au club. Ça, c'est une question qu'on vous avait posée en début de la précédente mandature, sur laquelle on n'a jamais eu de réponse précise. Et également, en ce qui concerne... Oui, quelle est la politique en matière de sport à Courbevoie, et notamment sur quels critères sont attribuées les subventions aux clubs sportifs, hein, dans quel but, voilà, ça c'est une question récurrente qu'on ne voit pas apparaître dans ce débat d'orientation budgétaire, parce que vous parlez des rénovations de bâtiments, etc., très bien, mais après il y a aussi tout l'argent qui est dépensé chaque année en fonctionnement sur les clubs. D'autre part, je voudrais revenir également sur la politique culturelle de la ville et sur le nouvel espace qui va être livré dans quelques jours. Dans ce débat d'orientation budgétaire, j'aimerais savoir combien de spectacles par an, déjà. Quelle articulation avec l'espace Carpeau? J'ai vu que dans les prévisions, il y a un ravalement de Carpeau, mais quid de l'accessibilité? Parce que là, c'est un très gros chantier qui est beaucoup plus qu'un simple ravalement. Quelle place donc dans cet espace pour les associations, et quelle place également aux entreprises? Puisque j'ai lu aujourd'hui dans le Courbevoie magazine que les entreprises allaient pouvoir contribuer au financement de cet espace en louant les locaux. Donc j'aimerais savoir quelle va être... À quelle fréquence? Est-ce qu'il va y avoir plus pour les entreprises que pour les spectacles, ou moins? À vous de me dire. Et d'autre part, absolument rien sur le cinéma à Bellegance. Donc est-ce qu'on laisse juste une salle de cinéma pour toute la ville de Courbevoie, ou est-ce qu'il y a d'autres projets ailleurs, voilà. Quels sont vos projets en matière de cinéma sur la vie? Merci.
Si vous permettez une dernière question, c'est concernant le réaménagement des locaux de l'hôtel de ville. Sur quel pays? J'ai 4,7 millions d'investissements hors PMR et hors ascenseur. Qu'est-ce qui est prévu dans les années à venir en réaménagement? Ça me semble énorme. Et tout en haut, en 116, page 28, tout en haut, la ligne 116.
Alors, je vais essayer de répondre à l'ensemble des observations qui ont pu être faites. Sur la forme, je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de questions qui sont très précises. Ce sont des questions qui rentreraient plus dans le cadre du débat du vote du budget, donc on pourra reprendre le 28 avril, on pourra rentrer beaucoup plus dans le détail. Là, nous sommes dans un premier temps là, sur les grandes orientations budgétaires et le déroulé de ce programme pluriannuel. Bien évidemment, ce n'est pas pour éviter les questions, mais c'est simplement pour resituer le débat. Il y a certains points de détail, je vais répondre, mais il y a des points de détail particuliers qui seront plus adéquats à traiter dans le cadre de du vote du budget qui aura lieu à la fin du mois d'avril. Concernant de manière générale, tout ce qui est les observations peut-être sur le cœur de ville. Je vous rappelle que nous avons voté ce soir, pour reprendre nos interrogations, nous avons voté ce soir le jury du concours. Donc c'est la phase numéro 1. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a déjà des études, des concertations ont déjà été réalisées, donc nous connaissons déjà un certain nombre de grands axes de cette grande mutation, cette revalorisation du cœur de ville. Donc nous l'avons lancé ce soir et nous allons dérouler. Et nous allons dérouler ensemble, puisque ça va donner lieu effectivement au cours des nombreux prochains conseils municipaux de cette mandature à des échanges et à une construction, soit dans le cadre des commissions, soit dans le cadre des débats publics, pour répondre effectivement à l'attente des Combloisiens qui a été, je crois, très bien perçu et qui ont bien perçu également les projets qui ont été développés. Donc ça, dans le cadre de ce projet, rentre bien évidemment toute la mutation de l'espace ludique, aqualudique, pour reprendre le terme, de mutation de la piscine, qui viserait notamment, et là encore, il faut qu'on aille un peu plus au loin dans la concertation, à créer effectivement un nouveau bassin pour permettre en même temps de pouvoir réaliser la nécessaire réfection et la nécessaire remise à niveau des bassins actuels sur le même site, hein, bien évidemment, profitant notamment des espaces qui sont devant le jardin des Pays. Donc ça, c'est quelque chose qui va être programmé dans le cadre de cette mutation, donc, de notre cœur de ville et du centre Charles. Sur le parc de Mécon, la phase numéro 1 qui consistait à privilégier donc le pavillon des Indes a été achevée. La phase qui suit le plus logiquement, c'est de continuer cette zone du parc pour continuer à dérouler le parc au fur et à mesure. Il est clair qu'on n'engagera pas l'ouverture de crédit qui avait été faite. La ligne de crédit qui avait été ouverte, ce qui n'est pas un vote budgétaire, je le rappelle, mais la ligne de crédit qui avait été ouverte sur l'ensemble du parc. Donc si on continue à dérouler logiquement le parc, en continuant en partant du pavillon des Indes, on va tomber sur le pavillon de l'Orangerie, hein, qui est le poste qui est budgété aujourd'hui, même si sa remise en état peut poser aujourd'hui quelques interrogations par rapport à l'usage que l'on va en faire. Nous pourrons débattre, ça fera partie justement des réflexions que nous aurons à mener. Et puis si on continue à dérouler en allant jusqu'à la Seine, on a le centre horticole. Donc le centre horticole, ça a un véritable débat de priorité, c'est un besoin, donc la ville a des besoins en matière de gestion de ces espaces verts, et la gestion des espaces verts, ça passe aussi par un centre horticole qui soit performant, qui soit source également d'optimisation de dépenses, puisque c'est un poste budgétaire qui est significatif, voilà, qui nécessite une gestion du personnel intelligente, hein, donc une organisation à optimiser. Il est clair qu'aujourd'hui, l'ancienneté du centre fait que nous ne pouvons qu'optimiser les choses. Donc aujourd'hui, le parc de Mécon doit naturellement se déployer du pavillon des Indes vers l'Orangerie en prenant en compte les problèmes techniques qu'il peut y avoir, puis ensuite vers le centre horticole qui est à... Et puis ensuite on continuera bien évidemment à déployer le réaménagement du parc avec quand même un certain nombre de problèmes techniques et des contraintes qui nous sont imposées, notamment par rapport à nos autorités de tutelle en matière de patrimoine, qui pose des problématiques par rapport au tennis, doit-il rester ou pas. Aujourd'hui, a priori, la position des services du patrimoine, c'est non. Donc il y a tout ça qu'il va falloir, effectivement, sur lequel il va falloir que nous travaillions. Donc ce n'est pas une opération comme la claquement de doigts qui se fait, on ne va pas dépenser 11 millions deux ans, on va continuer à dérouler ce programme de manière à ce qu'il avance petit à petit, et avec la tendance de la priorité que je viens de vous expliquer. Concernant les points qui ont été abordés en termes de vidéoprotection, je ne vais pas rentrer dans la polémique, là on est dans des propos dogmatiques par rapport à des propos pratiques, donc voilà, je crois qu'aujourd'hui il y a un besoin de surveiller, de protéger notre territoire, notamment en frontière, si je peux dire, aux abords de la ville. C'est le plan qui est privilégié aujourd'hui, on pourra en parler plus précisément en termes d'implantation quand ce dossier va être lancé, bien que ce qui est prévu pour 2013 a déjà été voté sur le mandat précédent. Donc là, on ne fait que dérouler le plan prévu, donc qui concourt effectivement à permettre à notre police municipale de pouvoir continuer à effectivement assurer ce contrôle et cette protection, et en liaison, mais ce n'est pas du tout incompatible, avec une gestion centralisée pour la partie secteur plus sur le territoire de la Défense, en liaison avec le comité d'agglomération. Je crois que c'est les deux, on ne peut pas tout centraliser en la matière. On a des actions qui sont menées sur Courbevoie, c'est pas le commissariat de la Défense qui interviendra si on a un problème de protection sur Bécon. Donc il faut quand même garder cette dualité. Et puis il y a également un certain nombre d'aménagements à effectuer au niveau du centre PC, du centre de poste de commandement, où il y a donc tous les écrans. Voilà, donc là il y a quelques adaptations du fait pour permettre effectivement au personnel et aux agents qui sont là de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et pouvoir, surtout en raison notamment de l'excellente formation qu'ils ont reçue, pouvoir traiter et appréhender les choses et même anticiper parfois la réaction des individus qui sont ciblés, de pouvoir lancer effectivement les mesures de protection qui sont les plus adaptées. En matière d'action sociale, effectivement, nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire, on ne peut pas détailler l'ensemble de toutes les actions qui sont réalisées sur la ville, sur la ville. Je ne peux que vous dire que nous allons maintenir les actions sociales qui sont lancées. Le CCAS sera doté d'un budget équivalent à celui de l'année dernière, il va continuer à mener ses actions, et de surcroît essaiera de les mener au mieux donc des intérêts des personnes et des Courbevoisiens qui sont dans le besoin et qui sont concernés. Concernant la réforme des rythmes scolaires, alors là non plus je ne vais pas entrer dans la polémique, mais on peut citer tout un tas de villes, je pourrais vous en citer un grand nombre, même des villes qui ont anticipé la mise en place, comme la ville de Paris, on ne peut pas dire que ce soit franchement un succès et un fonctionnement qui satisfasse un grand nombre de parents. Je crois que la démarche de la ville de Courbevoie, elle est exemplaire en la matière. Nous avons, alors, certes, on ne va pas limiter la problématique du rythme scolaire au problème du repas du mercredi midi. Je pense que les associations de parents d'élèves, les élus, les parents, la communauté éducative qui a travaillé sur ce projet, s'est pas focalisé comme vous l'avez fait sur le repas du mercredi midi. Ils ont travaillé sur l'intérêt des enfants, les activités utiles à leur développement sur cette nouvelle pause, qu'elles soient utiles aux enfants, qu'elles soient l'occasion de l'acquisition de nouvelles connaissances, etc. Je ne veux pas anticiper le débat que nous aurons sur la mise en place définitive sur un prochain conseil. Et voilà, je ne voudrais pas non plus que l'on ramène cet immense travail qui a été réalisé en totale concertation avec la population sur un problème qui est loin de l'intérêt des enfants. Avant de passer au niveau des recettes, il a été parlé d'un certain nombre de problèmes de dépenses, notamment au niveau des travaux qui ont été réalisés sur la place Hérold. Pas qu'on focalise l'opération cœur de ville sur la petite marche qu'il y a à l'angle de la place Hérolde et de cet axe départemental dont j'ai oublié le numéro d'ailleurs. Il y a un problème à régler qui est un problème de voirie, mais on est sur une voirie départementale. Voilà. Donc c'est la ville, c'est pas la ville qui peut le traiter, ça va se traiter avec le conseil général, c'est en cours, ça a pris un petit peu de retard pour des raisons techniques qui m'échappent, à demander aux personnes compétentes, mais je sais que c'est en cours et c'est quelque chose qui va se solutionner, je vous rassure, c'est normal. Sur la politique sportive de la ville, en termes de subventions, je pense que personne ici ne va remettre en cause la qualité des équipements, mais on ne peut aussi que se satisfaire, je pense, là je parle sous le contrôle de l'agent au sport et au loisir, on ne peut se satisfaire que du bon fonctionnement de nos associations. Les dotations qui sont allouées aux associations par rapport à la masse des subventions qui sont allouées à nos associations, si j'enlève la partie particulière du centre culturel qui est une dotation à part, 75% des subventions sont allouées aux associations sportives. Et cette répartition, elle résulte des dossiers qui sont parfaitement visibles dans lesquels ces associations expriment leurs besoins, justifient de par leurs actions qu'elles mènent, tant sur le territoire de la ville qu'à l'extérieur de la ville, notamment je pense aux associations sportives qui travaillent à la renommée de la ville de Courbevoie à travers les résultats qu'ils obtiennent à l'extérieur, mais aussi sur la ville. Donc il y a ces associations qui demandent, qui sollicitent, qui expriment leurs besoins, qui les justifient qui sollicitent donc des attributions à laquelle la ville répond en fonction d'un certain nombre des critères, et notamment des discussions et des priorités qui sont traitées avec les associations. Enfin, je pense que c'est un élément qui me paraît effectivement important de rappeler. D'ailleurs, vous verrez passer, je ne sais pas, notamment peut-être ce soir, ou en tout cas lors du prochain conseil, certaines associations où nous avons mis des acomptes sur subventions. Parce qu'aujourd'hui, ces dossiers nécessitent que nous revoyons ces associations pour mieux comprendre leurs demandes, de manière à, ou par rapport à leur situation financière qui semble présenter un certain nombre d'éléments favorables, donc de manière à discuter avec eux de l'opportunité des attributions qu'ils nous sollicitent et qui méritent peut-être quelques ajustements, quelles sont les priorités qu'ils ont mis en avant dans leur dossier qui peut-être n'apparaît pas à la lecture. Voilà, il y a un véritable débat qui est effectué là-dessus et qui est quand même, je pense, bien retraduit à travers le dossier électronique des associations et qui est donc à la disposition des conseillers préalablement donc aux décisions à prendre en conseil municipal. Donc, les choses sont relativement transparentes.
Oui, donc si je comprends bien, on est sur du cas par cas, c'est-à-dire que les associations sportives font une demande et vous y répondez en regardant le dossier. Moi, ce que j'aimerais...
En regardant le dossier, il y a des échanges continus, voilà, avec le service des
non mais moi ce que j'aimerais savoir c'est quelles sont
une action permanente dans le cadre du contrat qui lie la ville à ses associations qui est un contrat d'objectif qui donne lieu à des discussions, à des bilans annuels qui ne sont pas des bilans comptables mais des
actions j'entends bien
de manière à discuter avec eux quelles sont les priorités et comment on peut améliorer ce point lorsqu'il y a des difficultés.
D'accord, mais moi ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les critères qui vous font donner plus ou moins à une association sportive. Il peut y avoir des critères tout à fait objectifs, comme par exemple le classement dans les compétitions, voilà. Comme le nombre d'adhérents, comme la durée d'occupation de tel ou tel espace. Et voilà, ces critères qui sont des critères objectifs, quels sont-ils et quelles sont les priorités qui font qu'un club va avoir plus qu'un autre. C'est tout. Je cherche juste à essayer de comprendre quelle est la politique sportive de la ville. C'est tout.
Oui. J'ai essayé de vous répondre le mieux possible. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Courbevoie, notre politique n'est pas orientée au départ vers l'élite, comme d'autres villes, Vous savez pertinemment que ça coûte très très cher. Donc, en ce qui nous concerne, le sport, nous, c'est le sport de masse qui nous intéresse. Au travers du sport de masse, eh bien, si on le peut, on générera les élites. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe dans, aujourd'hui, 7 ou 8 associations sportives de Courbevoie. Alors, lorsque, Mme Boucherie, vous êtes en première division, il est évident que ça vous coûte plus cher que si vous êtes en départemental. Et ça, vous avez, je vous dis, 7 ou 8 équipes, que ce soit la natation, que ce soit le rugby, que ce soit le hockey, enfin, l'aviron. Je voudrais également vous dire, et ça c'est quand même important, c'est que nous avons, en près de 10 ans, doublé le nombre de licenciés à Courbevoie. Aujourd'hui, à Courbevoie, nous sommes près de 20 000 licenciés qui sont dans toutes les associations courbevoisiennes sportives. Eh bien, j'en suis fier, nous arrivons en première position au niveau du département. Alors, le fait qu'on soit premier, tant chez les seniors que chez les enfants, eh bien, c'est quelque chose quand même qui est important pour la ville. Car d'avoir des enfants qui peuvent avoir des professeurs, des entraîneurs, qui sont bien en rapport avec leur... et ça, vous êtes obligé de payer. Hein, on n'est plus au stade de bénévolat, comme lorsque je faisais du sport à Courbevoie. Nos entraîneurs étaient bénévoles. Ça a bien changé. Disons que la politique aussi sportive, et vous le savez, Mme Boucherie, quand vous posez la question, vous le faites et vous le faites bien, mais qu'on me voit, eh bien c'est aussi dans les... Et là je dévie un tout petit peu, mais c'est dans chaque école, eh bien un moniteur d'éducation physique. Ce sont 37 intervenants dans les écoles. Alors, de demander la politique sportive à Courbevoie, sur quoi repose-t-elle? Eh bien, moi, je pense qu'elle repose sur des hommes, sur des bâtiments. Et ça aussi, vous oubliez de le dire, quand on voit les bâtiments que nous avons à Courbevoie, et nous allons avoir l'émergence avec le prochain qui va être inauguré à la rue de Colombes, je crois que tous les sportifs, maintenant qu'ils font du sport à Courbevoie, sont bien. Et je vais vous en donner un exemple frappant. Regardez comment sont conservés les édifices sportifs. Vous n'avez pas un seul tag. Eh bien, c'est un respect, ça. Et disons que quand vous avez des équipes sportives qui viennent de l'extérieur et qui voient nos installations, eh bien, ils se réclament et ils disent que Courbevoie, au niveau sportif, est une ville qui propose beaucoup de choses aux enfants. Et une dernière chose, Madame Boucherie, je voudrais simplement vous dire, et on ne nous le délivre pas comme ça, c'est le ministère des Sports qui nous l'a délivré. Eh bien, en milieu d'année dernière, nous avons été labellisés. Nous avons eu le label de la ville sportive et ludique française, avec des villes comme Strasbourg, Ajaccio et autres. Bon, on peut rigoler, mais on l'a eu. Et d'autres villes sont tombées en ayant postulé à cette distinction. Alors, on pourrait faire mieux, peut-être. Mais croyez bien que nos sportifs, eh bien dans nos installations, eh bien à mon avis, sont très satisfaits. Mais ceci étant, sur la question que vous posiez, eh bien oui, les subventions sont faites en rapport, eh bien, de l'échelon dans lequel évoluent les associations, le nombre aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans des associations où vous êtes, par exemple au judo, 1500, première association sportive de France, Eh bien, il vous faut quand même des animateurs. Les mômes, ils vont pas rentrer dans les salles comme ça, histoire de regarder si la salle est jolie. Non. Quand vous voyez, par exemple, le tennis de table, je pense que vous allez suffisamment à Jean-Pierre Vive pour voir les salles. Eh bien, on vous propose quand même des salles qui, comme je vous l'ai dit, disons, où les enfants sont satisfaits. Voilà, et puis vous avez aussi le fonctionnement qui fait que eh bien, des moniteurs, il faut les payer. Voilà ce que je voulais simplement dire. Hein. J'étais peut-être un peu long, je voulais vous expliquer dessus.
Merci, M. Cortès. M. Gimonet.
Concernant le volet recettes, pour les questions qui ont été posées, et notamment sur la partie concernant le vote des taux, je crois que le vote des taux est à l'ordre du jour du prochain conseil municipal du 28 avril dans le cadre du budget. Ça me paraît un petit peu prématuré d'en parler aujourd'hui. Ce que je peux vous assurer, c'est que de toute façon, les taux qui seront votés permettront à Courbevoie de rester toujours dans le même niveau où se situe aujourd'hui, c'est-à-dire une des villes de France et des Hauts-de-Seine qui ont les taux les plus faibles. Ça, je peux vous l'affirmer sans aucune difficulté. D'où la juste répartition, si vous voulez, aussi entre les impôts payés par les ménages et les impôts payés par les entreprises, hein, et la contribution des entreprises à l'économie du territoire. Je crois que c'est pour ça que nous avons toujours insisté sur ce nécessaire développement et entretien de ce développement économique. Et les actions qui sont menées aujourd'hui, même si certaines opérations ont demandé un petit peu plus de temps, mais là ça dépasse, hein, c'est sur l'ensemble donc, de la mise en place des rénovations d'immeubles, etc., sur le territoire de la défense, il n'en demeure pas moins que vous avez malgré tout un dynamisme sur les PME. Sur les PME qui sont sur notre secteur et qui sont attirées par quoi ? Qui sont attirées par les entreprises, les grandes entreprises qui leur fournissent des missions, qui leur fournissent du travail, qui leur fournissent des clients, que ce soit les entreprises qui soient dans le consulting, dans l'informatique, dans la haute technologie, dans le conseil, et aussi tout le tissu du commerce local qui travaille avec non seulement bien sûr les Courbevoisiens, mais aussi tous les visiteurs, que sont les personnes qui viennent travailler sur notre territoire. Vraiment, l'équilibre est vraiment important à maîtriser et à poursuivre. En ce qui concerne l'augmentation de la dette, alors oui, nous assumons totalement l'augmentation de la dette de ces deux dernières années et on n'a pas peur et on s'en cache pas. Nous l'assumons totalement. C'est une décision que nous avons prise. Nous avons privilégié, lors du dernier mandat, l'autofinancement de nos investissements. Regardez donc le budget que M. Croche, qui vous attiriez l'attention dessus, pendant quasiment trois années, la ville n'a pas emprunté. Elle a totalement, à 100%, autofinancé ses investissements. C'est une décision que nous avions voulu. On l'a décidé ainsi. D'ailleurs, je pourrais citer... de manière un petit peu humoristique, un de vos précédents collègues, monsieur De Noël, qui avait des analyses tout à fait fines, mais qui nous avait dit au début du dernier mandat, oh là là, la ville gave les banquiers en empruntant beaucoup trop, je pense que c'était en 2010. Ça. Bon, les comptes administratifs que vous avez sous les yeux montrent bien évidemment que c'était un argument purement politique, mais qui n'est pas un argument réel, dit financier. Et donc, nous avons effectivement, pendant trois ans, quasiment pas emprunté, tout simplement, et nous avons positionné nos emprunts, nos sollicitations, l'appel à l'emprunt, pour les projets les plus structurants, pas pour des investissements qui sont, je dirais, plus courants. Il me semble beaucoup plus logique de financer des investissements structurants sur du long terme, et puis, pour dire aussi, nous avons eu de la chance, les Courbevoisiens ont eu de la chance, c'est que sur ces deux dernières années, les taux sont particulièrement bas. Tant mieux pour les Courbevoisiens, c'est eux qui bénéficieront donc d'un coût, la fois de l'intérêt de la dette qui sera moins important, mais qui va permettre aussi en contrepartie de financer des investissements sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi d'emprunter sur du long terme, et notamment par des emprunts un petit peu atypiques, des emprunts in fine que nous avons financés sur le marché allemand, qui présentaient des taux intéressants et qui sont amortis sur des échéances à 17, 18, 19, 20, 21 ans sur les 5 emprunts de 7 millions d'euros que nous avons conclus à ce temps. Voilà, c'est vraiment une stratégie financière que nous avons mis en place avec M. le maire pour justement essayer de faire apparaître, au moment où on a des investissements très structurants, de mettre en face une dette, et par chance, cette dette, on a pu la souscrire à des conditions intéressantes parce que le marché financier était plutôt bas. On ne peut que s'en réjouir. Alors maintenant, effectivement, le taux, le ratio du poids de la dette par habitant, quand je vous annonce 1438 euros, un chiffre qui est 17 de division du montant de la dette divisé par le nombre d'habitants, nous le comparons à un ratio qui correspond aux villes de 50 à 100 000 habitants sans communauté d'agglomération. Et ça, c'est le ratio que voilà. Donc, et vous prenez comme ratio, et vous n'avez pas tout à fait tort, le ratio des villes de notre strate qui ont une communauté, qui sont membres d'une communauté d'agglomération.
C'est toutes les villes.
Absolument. Membres d'une communauté d'agglomération. Donc, alors, là où c'est ma présentation qui éclaire le mieux le lecteur, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons une communauté d'agglomération Seine-Défense, qui est une agglomération naissante, qui n'a pas réalisé depuis 2 ans, puisque ça a été dans ce démarrage, d'investissements significatifs. Tous les investissements ont porté sur les villes, en même temps qu'elles se mettent en place, qu'elles se voient attribuer ses compétences, etc. Donc en fait, si on compare, il faut comparer avec les villes qui n'ont pas de communauté d'agglomération, qui assument la totalité de leurs investissements, comme la ville de Courbevoie. Voilà donc pourquoi vous trouvez un écart, mais on pourra le mentionner, je le mentionnerai dans le rapport pour le vote du budget 2014, de manière à ce qu'il y ait une transparence totale, en donnant le ratio des villes adhérentes des membres d'une communauté d'agglomération et celles non adhérentes. Donc ça, on aura une totale, ça évitera d'effectuer des politiques. Voilà, enfin, en termes d'investissement, en ce qui concerne l'hôtel de ville, les deux montants de 2 millions, ce sont des enveloppes d'un million d'euros par an. Donc, deux fois 2 millions, donc c'est 4 enveloppes d'un million d'euros qui visent. Il y a eu des travaux qui n'ont pas échappé à l'intérieur de l'hôtel de ville de rénovation, donc pas forcément un luxe, hein, puisqu'il a été rénové de manière relativement simple, plutôt fonctionnelle en tout cas, pour permettre le travail des élus, l'accessibilité, une bonne visibilité des gens pour l'accès aux services. Nous avons également programmé des travaux sur les salles informatiques, notamment pour les salles de serveurs. Il y aura des positionnements. Le Val, qui occupe une partie de l'hôtel de ville, sera amené à transférer ses locaux administratifs au premier étage, au deuxième étage, à l'étage supérieur de l'ancienne recette municipale que la ville va donc réaffecter au Val. Nous allons poursuivre les réfections des locaux selon un programme qu'on a plus ou moins adapté. Il faut reprendre encore quelques travaux à faire sur l'ancienne hôtel de ville. Il y a encore des locaux pour la partie des services administratifs qui sont à rénover et que l'on positionnera un petit peu plus tard, justement lorsque les services du Val auront déménagé. Tout ça, ça résulte d'une certaine logique pour étaler les choses dans le temps. Et puis, il y aura également la création du guichet unique, hein, qui est demandé par le Courbevoisien, parce qu'on a besoin des contraintes que la ville doit leur fournir, et qui vont rentrer également, l'installation de ce guichet unique qui va rentrer dans le cadre de ces travaux qui figurent dans ces enveloppes. Tous les grands postes d'investissement, et ce sera mon dernier propos pour conclure, tous ces grands postes d'investissement qui sont exposés sont des investissements qui, la plupart du temps, marquent soit des réponses à des problématiques particulières comme la performance énergétique, comme la mise aux normes et en conformité des locaux, notamment pour les accessibilités. Mais ce sont aussi des investissements qui sont structurants et qui vont donner du corps au fonctionnement de la ville, comme les investissements liés notamment à la partie événementielle, les investissements liés à la construction de nouveaux gymnases sur Pompidou, l'organisation de la ville à terme, qui vont répondre à la structuration de l'aménagement du village de l'âge sur la zone des Bruyères, les axes commerçants Marceau-Bezon, le cœur de ville, etc. Donc, je ne vais pas me répéter. Tous ces grands postes, ce sont des postes qui sont effectivement qui rentrent dans le cadre du programme qui a été proposé aux Courbevoisiens et qui a priori semble répondre à leurs besoins.
Merci M. Gimonet. Je vous rappelle que les orientations budgétaires ne donnent pas lieu à un vote. Dossier suivant, M. Gimonet.
Il s'agit d'un compte sur subvention. Un compte sur subvention de fonctionnement avant l'adoption du budget primitif 2014, qui, comme vous avez compris, sera à l'ordre du jour du prochain conseil. L'article 1612 du Code général des collectivités territoriales encadre des opérations qui peuvent être effectuées avant le vote du budget pour permettre le fonctionnement des services de la ville et en droit, jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement des recettes, des mandatés des dépenses en section de fonctionnement dans la ville, des sommes inscrites dans le budget. Après l'examen des dossiers présentés par différentes associations, il demandait au Conseil d'attribuer les acomptes sur les subventions 2014 figurant dans le tableau qui a été joint à la convocation et de m'autoriser à signer tout document relatif à ces attributions, conventions de partenariat, plans à ces conventions, etc., qui vont donc bénéficier à ces associations pour l'année 2014 et qui dépassent les montants de 23 000 euros pour les associations sportives et le montant de 3 000 euros pour les autres associations. Voilà, donc le document a été joint. Je précise qu'en ce qui concerne deux associations Archipel et Codocan, club de Courbevoie, Madame Pernod et Monsieur le maire ne prennent pas part au vote pour Archipel et Monsieur Courtès-Fichant ne prennent pas part au vote pour Codocan, club de Courbevoie.
Des questions ? Madame Paris ? Qui s'abstient ?
Pour l'étude, Corinne Raduel et moi-même votons pour, mais contre le stand de tir, les subventions.
Qui est contre ? Dossier suivant, M. Gimonet.
Alors, ça concerne le marché de maintenance multitechnique et services des bâtiments de l'ensemble de la cité des loisirs, bâtiment Colombe, bâtiment événementiel et espace Jean-Pierre Gris. Une procédure d'appel d'offres ouverte a été lancée en vue de passer un marché de maintenance multitechnique et de services des bâtiments de la cité des loisirs ainsi que d'espace Jean-Pierre Gris. Le marché est prévu pour une durée de 2 ans, à compter du 1er juin 2014, ou de sa date de notification si elle était postérieure. Le marché est reconductible tacitement 2 fois, mais pour une période d'un an seulement, soit sur une durée maximale de 4 ans. À l'issue de la procédure, la commission d'appel d'offres, qui s'était réunie le 20 mars 2014, a attribué le marché au groupement SNEF, TEFIT, MSI Sécurité, dont la société SNEF, SNEF, est le mandataire. Le marché est dévolu à prix mixte. Le marché comporte une partie forfaitaire et une partie à bon de commande, sans montant minimum ni montant maximum. Le marché est dévolu en tranches, avec une tranche ferme et une tranche conventionnelle. La tranche ferme s'établit comme suit sur 2 postes. Le poste numéro 1, c'est l'exploitation et la maintenance multitechnique. Et le poste numéro 2, c'est ce qui concerne l'hygiène et la propreté. Et enfin, une tranche conditionnelle, dite numéro 1, qui est relative à la sécurité, au service sécurité incendie. Le marché comportait plusieurs options qui ont été détaillées dans les pièces contractuelles du monde aussi. Certaines de ces options ont été levées, à savoir notamment l'option 3 et l'option 4. Qui portait sur la maintenance de la production de froid alimentaire et l'équipement de cuisine fixe. Le montant du marché sur la durée ferme des 2 ans s'élève à, je vous le donne directement TTC, 1 838 230 euros TTC, hors option. Le montant du marché sur la durée ferme de 2 ans avec l'option
3 et 4 comprises s'élève à 1 862 304 euros. Le montant total du marché sur la durée maximum soit 4 ans, option retenue, s'élève à 3 709 893 euros. Il est demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à signer et exécuter le marché de maintenance multitechnique et de service des bâtiments de la Cité des Loisirs, l'espace festif, ainsi que tout document en découlant.
Des questions ?
Juste sur la Cité des Loisirs, mais en particulier, est-ce que le délai de réception des travaux a été publié ou pas ? Est-ce qu'il a été connecté ?
En termes de réception, aujourd'hui a été réceptionné le bâtiment Colomba.
Donc ça a été, il y a avec un procès verbal qui a été établi.
Évidemment, avec un passage de la commission de sécurité.
Avec les gens sécurisés. Sans réserve.
Sans réserve.
D'accord. La Cité des Loisirs.
La Cité des Loisirs, le bâtiment est livrable dans les jours qui viennent, je pense fin de semaine prochaine. Et la commission de sécurité est programmée dans les jours qui vont suivre. Et la commission de sécurité le 9 mai.
D'accord. Alors, sur cette délibération, la stratégie des achats groupés qui permet, pas simplement au niveau d'une ville, de jouer sur les coûts, c'est une chose. Mais par contre, dans la gestion de ces équipements, je pense que la Cité des Loisirs, il faudrait l'isoler dans un budget annexe comme il existe pour les cantines, parce que c'est un équipement qui est trop important. Et par voie de conséquence, il faudrait que toutes les dépenses, toutes les recettes puissent y figurer. Autrement dit, là, nous avons un achat, on va voter pour, puisque c'est du basique, on ne peut pas voter contre. Mais il aurait été préférable, enfin, à un moment donné, en tout cas, il faudra pour l'avenir, que ça puisse figurer dans un budget annexe distinct, pour qu'on puisse avoir une vision très précise, très claire, de ce que va recouvrir. Ça se fait pour les grands équipements de cette nature, d'ailleurs, assez classiquement. Hein. Pour qu'on puisse avoir une vision très claire d'aujourd'hui et de demain, puisque bon, on a eu quelques échanges, vous avez repris quelques paragraphes consacrés à cet équipement. On voit qu'on va se poser la question derrière sur le moyen terme du business plan, quelles vont être les ressources. J'ai pu comprendre que vous tablez sur les entreprises. J'ai appris tout à fait par vous dire, je ne sais pas, peut-être vous allez me confirmer qu'il y aurait un directeur ou un chargé de développement qui était recruté. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'évidemment, nous, on n'a pas toutes ces informations, c'est toujours par oui dire. Mais en tous les cas, la question du développement sur le court et moyen terme va se poser. Donc, il est extrêmement important que l'on puisse isoler ce budget. Et du coup, y compris dans les dépenses, la partie maintenance. Donc, nous allons voter pour, parce que ça, c'est basique. Hein. Mais il faudra vraiment se livrer à cet exercice pour qu'on puisse avoir un peu de visibilité là-dessus. Alors, viens de vous passer TikTok pour me dire si l'on est du directeur, parce que je
veux avoir une information. Non, je peux.
Allez-y. Qu'est-ce que je coupe ?
Le coupé.
Ah, vous savez pas ce que vous allez me dire ?
Merci. Donc, concernant. Oui, non. Les services, M. Niveau, qui est directeur général adjoint et directeur des services financiers actuellement, a d'ores et déjà l'ensemble mis en place une comptabilité, une gestion analytique de l'ensemble de tous les coûts, naturellement. Il est impératif de les suivre, on ne peut pas faire autrement, bien évidemment. Donc il sera suivi l'ensemble de ce service. Et ça ira même un peu plus loin, puisque nous avons même travaillé sur la création d'un secteur distinct fiscal, de manière à pouvoir optimiser nos dépenses et récupérer, en tant que faire se peut, la TVA qui grèvera nos dépenses de fonctionnement dans la mesure où ces bâtiments pourront donner lieu à des recettes taxables à la TVA. Donc voilà, ne serait-ce que pour ces éléments fiscaux, la distinction donc, au sein d'un secteur distinct, alors ce n'est pas un budget annexe, c'est un secteur distinct, avec une comptabilité analytique très précise, permettra de répondre.
Mais quel sera le régime juridique
alors aujourd'hui on est sur un élément ville avec une
technologie. On table actuellement sur une gestion éventuellement en SPL ou en SEM, je ne sais pas. Enfin, on travaille avec nos prestataires, nos conseils en la matière, de manière à trouver l'élément qui est le plus adapté, compte tenu notamment de ces éléments fiscaux que je vous citais, qui visent aussi à optimiser nos dépenses et éviter, et donc nous permettre de réaliser effectivement des récupérations si tant est que ce serait possible.
D'accord. SPL ou SEM, hein, c'est ça?
Oui, SPL ou SEM, mais on aura des débats là-dessus, hein, on travaille dessus, pour les choses se mettent en place. Et je vous confirme, et ça, vous l'avez peut-être pas entendu, vous vous en souvenez plus, ce qui pourrait tout à fait se comprendre parfaitement. Donc il y a une ouverture de poste qui a été faite, qui a été votée en conseil municipal.
Le recrutement, on va dire que le recrutement avait lieu.
Absolument, d'accord. M. Chira a été embauché, il est en poste depuis la fin de l'année 2013, conformément à l'ouverture de poste. Et travaille, il a une activité très intense sur la mise en place de ce centre événementiel.
De toute façon, votre tour, puisque c'est pas bon.
Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, M. Gimonet. M. Jean.
Convention avec la ville de Paris relative aux dépôts, musée Revitour donne une peinture de contre-éloquence sur les ailes du rêve. La ville de Paris détendait une peinture de contre-éloquence intitulée Sur les ailes du rêve, réalisée et exposée au Salon des artistes français en 1908, concentre au dépôt de cette œuvre au musée Revitour. Le tableau sera présenté lors de l'exposition temporaire du 17 mai au 18 août 2014 au musée Revécoude. Nous proposons d'établir une convention entre les deux collectivités afin de régulariser le statut de l'œuvre au sein des collections du musée. Il est demandé au Conseil d'approuver la convention à signer avec la ville de Paris relative au dépôt au musée Revécoude d'une peinture de conseil de Paul intitulée Sur les ailes du rêve et d'autoriser M. le maire à la signer ainsi que pour les documents y afférents.
Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci M. Jean. Toujours sur le musée Roi des Foules.
Organisation de cycles de conférences et d'événements des conférenciers au musée Roi des Foules. Le musée Revécoude souhaite développer sa mission de médiation par l'organisation de cycles de conférences qui se dérouleront au musée et au thème des sujets définis par l'institution en lien avec ses collections. Il est proposé de défrayer les conférenciers à hauteur de 200 euros pour les conférenciers habitants sur l'île de France, 250 euros pour les conférenciers hors l'île de France. Il est demandé au Conseil d'approuver l'organisation des conférences par le musée Revécoude, d'approuver le défraiement des conférenciers, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents y afférents.
Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dernier dossier sur le musée Revécoude, monsieur.
Édition de publication mise en régime de celle-ci et fixation du tarif du catalogue femmes et articles au 19e siècle. Le musée Revécoude, en tant qu'institution culturelle, peut éditer ses propres publications. Les catalogues, ouvrages scientifiques ou livrets d'accompagnement à la visite constituent des outils de médiation permettant de valoriser les collections du musée et de diffuser les recherches effectuées par le service. Ces publications seront susceptibles d'être vendues par le musée ou tout autre revendeur, lieu ou organisme commercial, dans le cadre d'un partenariat de diffusion. Elles seront donc inscrites dans la régie du musée. Par ailleurs, le musée Revécoude organise une exposition qui se déroulera du 17 au 18 août sur le thème femmes et artistes au 19e siècle à travers les collections du musée Revécoude. Cette exposition sera accompagnée d'un catalogue permettant aux visiteurs de prendre connaissance des recherches effectuées sur le sujet. Pour cette exposition, il est proposé d'autoriser la vente du catalogue du musée au prix particulier de 12 euros l'unité et à tout autre organisme ou structure dans le cadre d'un partenariat de diffusion des revendeurs de 10 euros l'unité. Le coût de l'envoi postal sera en supplément et à définir au cas par cas. Il est par ailleurs demandé d'inscrire dans la régie du musée Robert Food 700 exemplaires sur les 1000 exemplaires édités. Les 300 exemplaires restants seront conservés hors régie avant de permettre les échanges et les dons. Il est demandé au Conseil d'approuver la publication par le musée Robert Food de catalogues ouvrages scientifiques ou livrets d'accompagnement d'autoriser la mise en régie digitale des publications du musée Robert Food, d'autoriser la mise en régie de 700 catalogues au musée Robert Food et de 300 exemplaires hors régie de l'exposition Femmes et artistes auditeurs du 19e siècle à travers les collections du musée Robert Food, de fixer le prix de vente à 10 euros TTC pour les particuliers et 10 euros pour les structures commerciales de l'exposition Femmes et artistes au XIXe siècle à travers les collections du musée Robert Food, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents qui afférent.
Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci M. Jean, Madame Bonneau. Indemnité de fonction du maire et des adjoints au maire. La loi 92-108 du 3 février 1992, modifiée par les lois 2295 du 5 avril 2000, numéro 2002-276 du 27 février 2002, et numéro 2013-403 du 17 mai 2013, prévoit que des indemnités de fonction peuvent être versées aux élus locaux. Ces indemnités ont vocation à compenser les dépenses et sujétions que les élus supportent dans l'exercice de leurs charges publiques. Le montant de ces indemnités et leurs éventuelles majorations prévues par les textes doivent être soumises au vote du Conseil municipal. Le montant maximal d'indemnité pour l'exercice des fonctions de maire ou d'adjoint au maire est fixé, d'une part, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, indice brut 10-15. D'autre part, les indemnités se calculent en appliquant un barème démographique qui vaut au Beauvois strate démographique de 50 000 à 99 999 habitants, prévoit d'une part un taux maximal de 110% pour l'indemnité du maire et d'autre part un taux maximal de 44% pour les indemnités des adjoints au maire. La loi prévoit aussi la possibilité d'une majoration de 15% en raison de la désignation de la commune comme chef-lieu de canton. En regard des règles relatives au cumul des mandats, le montant total des indemnités versées à un élu local ne peut être supérieur à une fois émis le montant de l'indemnité parlementaire. Ainsi, en cas de dépassement, le député maire peut choisir l'indemnité qui peut être écrêtée. Enfin, il convient de préciser que la modification de l'article L2123-22 du CGCT par la loi numéro 2013-403 du 17 mai 2013 met fin au reversement de l'écrêtement à d'autres élus locaux. A noter que les indemnités de fonction sont soumises à cotisation sociale, imposition et suivent les évolutions du point d'indice de la fonction publique. Des questions? Oh, je vais pas vous En vertu de ces dispositions et à compter du 29 mars 2014, date de la réélection du maire, et avec effet de la date à laquelle leur délégation a revêtu un caractère exécutoire pour les adjoints au maire, il est demandé au Conseil de fixer à 110% de l'indice brut terminal de l'échelle incidiaire de la fonction publique le taux maximum de l'indemnité pour l'exercice des fonctions de maire.
de fixer à 44% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le taux maximum de l'indemnité à verser aux adjoints au maire pour l'exercice de leur fonction. De décider qu'il sera fait application de la majoration de 15% prévue pour le calcul des indemnités de fonction des maires et adjoints des communes chefs-lieux de canton par les articles L 2123-22 et R 2123-23 du Code général des collectivités territoriales. De prendre acte, dans sa qualité de député des Hauts-de-Seine, le maire a choisi de faire porter l'écrêtement sur son indemnité de fonction de maire, d'approuver les tableaux annexes détaillant les indemnités allouées aux maires et aux adjoints aux maires.
Cette fois-ci, c'est terminé. Des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Madame Renaud, dossier suivant.
Droit à la formation des élus locaux. Les lois 92-108 du 3 février 1992 et numéro 2002-276 du 27 février 2002 instituent un droit à la formation au profit de chaque titulaire d'un mandat local et organisent les conditions dans lesquelles les assemblées locales déterminent leur politique de formation. Ainsi, il convient de délibérer sur l'exercice du droit à la formation des membres du conseil municipal en déterminant les orientations et crédits ouverts à ce titre. Il est proposé au conseil municipal de permettre à ses élus d'orienter leurs demandes de formation dans les domaines de compétences qui relèvent des délégations existantes à cause de loi, auxquelles peuvent éventuellement s'ajouter d'autres formations de leur choix, dès lors qu'elles sont liées à l'exercice de leurs fonctions électives et qu'elles sont dispensées par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. Le budget annuel qui sera consacré ne pourra excéder le plafond légal de 20% des indemnités de fonction allouées aux élus. La liste des actions de formation réalisées annuellement sera annexée au compte administratif et donnera lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil. Afin d'exercer leur droit à la formation, les élus locaux salariés, fonctionnaires ou contractuels dispose d'un congé de formation de 18 jours pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats détenus. Les pertes de revenus qui en résulteraient seront compensées par la commune dans la limite de ces 6-8 jours et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais d'hébergement et de restauration seront pris en charge dans les mêmes conditions et les dispositions qui régissent le déplacement des fonctionnaires de l'État, lesquelles ont été transposées à tout besoin dans la délibération du 3 octobre 2007 sur les frais de déplacement du personnel municipal. En vertu de ces dispositions, il est demandé au Conseil de décider que les élus du conseil municipal auront la possibilité d'effectuer des formations dans les domaines de compétences qui relèvent des délégations existantes à Courbevoie, auxquelles peuvent éventuellement s'ajouter d'autres formations de leur choix, dès lors qu'elles sont liées à l'exercice de leurs fonctions électives et qu'elles sont dispensées par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. De décider que les frais de déplacement occasionnés par ces formations seront pris en charge dans les mêmes conditions que les dispositions qui régissent le personnel municipal. De préciser que le budget annuel consacré à ces actions de formation ne pourra excéder 20% du montant total des indemnités de fonction allouées aux élus. D'acter la compensation de la perte éventuelle de salaire justifiée par l'élu concerné et plafonnée à l'équivalent de 18 fois 8 heures à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par élu pour la durée du mandat. Et enfin, d'imputer le montant des dépenses afférentes à ces formations sur les crédits inscrits annuellement au budget.
Des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre?
Non, ça ne tient pas. Ah non, pardon.
Pour la formation, non.
C'est sur le droit à la formation.
On
n'a
rien.
On n'a pas le droit d'avoir d'indemnité, mais on a le droit de se former. Merci. Merci, Madame Renaud.
Je ne vais pas pourquoi vous dites ça, puisqu'on s'est acheté le président. Ça ne nous concerne pas.
La formation, ça
vous avez adressé à M. le maire des questions orales.
très rapidement.
Alors, les parents ont reçu des messages relatifs au...
Parlez bien près du micro, je suis désolée, on entend très mal.
Si on en avait un chacun, ça serait quand même vachement plus facile.
Cher.
Ça m'éviterait de coucher sur un voisin.
Il y a plus de caméras de réseau que de micro.
Les parents ont reçu... Il va y en avoir un de baladeur. Les parents ont reçu des messages relatifs aux rapports successifs, aux reports successifs des inscriptions des séjours de vacances par mail, peut-être d'une autre façon, je ne sais pas. Donc, quelles étaient les causes de ce dysfonctionnement ?
Madame Ockneux ?
Alors, je vais d'abord vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu une cause de dysfonctionnement. À l'heure actuelle, les inscriptions scolaires, périscolaires et de petite enfance sont gérées et facturées à l'aide du logiciel Concerto édité par la société Ardèche. Ce logiciel est installé sur les serveurs de la mairie. Le portail famille permettant la préinscription par les familles et le rechargement des comptes CQV, ce qui est lui CQV+, est quant à lui installé et géré par la société Ardèche en ses locaux. Chaque jour, une synchronisation sécurisée permet l'envoi des mises à jour réalisées sur notre base à l'espace famille et la récupération des préinscriptions et des paiements. C'est cette synchronisation qui ne s'est pas faite et c'est pour ça qu'il y a eu un dysfonctionnement à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas eu plusieurs reports, mais un report du 2 avril, date à laquelle les inscriptions devaient se faire, au 9 avril. On a pris un délai supplémentaire pour être bien sûr que tout fonctionne. Et à partir du 9 avril, toutes les familles ont pu s'inscrire. Il n'y a eu aucune famille de pénalisée en termes d'inscription, puisque en plus, à ce jour, toutes les familles se sont inscrites à partir du 9 avril, toutes en même temps. Et à ce jour, il reste encore des places pour les séjours été. Je précise bien que ce n'était pas pour les vacances de Pâques, mais pour les séjours été. Il y a encore des places disponibles. Voilà. Il y a une douzaine de familles qui nous ont téléphoné, qui se sont déplacées tout simplement, et auxquelles on a répondu. Et voilà, et donc il n'y a pas eu d'autres problèmes à ce jour.
Merci. Question suivante. J'enchaîne avec la question suivante. De quelle façon la ville va-t-elle relayer dans cette mandature dans les années qui viennent le plan vélo national sur son territoire?
Monsieur Akar.
Alors, un rappel, le plan national vélo annoncé par le gouvernement pour la fin 2013 a été dévoilé le 5 mars dernier. Par communiqué de presse du ministère, ce plan d'action s'articule autour de 6 axes. 1. Développer l'intermodalité avec les transports collectifs, donc c'est en relation essentiellement avec la SNCF. 2. Partager et sécuriser l'espace public. Il s'agit d'une réforme du code de la route et législation claire sur l'utilisation des trottoirs. 3. Valoriser les enjeux économiques liés à la pratique du vélo. Par exemple, indemnité kilométrique pour se rendre au travail à vélo. Est-ce qu'il y aura des entreprises volontaires pour essayer, peut-être? 4. Prendre en compte des politiques de mobilité active dans l'urbanisme. Aménagement d'un local à vélo obligatoire dans les immeubles, ça on l'a déjà vu dans le flux. 5. Développer les itinéraires de loisirs, le tourisme à vélo. 6. Faire découvrir les bienfaits de la marche et du vélo. Création de vélo-écoles, de pédagogie renforcée pour la marche, etc. Alors, on constate que la plupart de ces mesures concernent principalement l'État et d'autre part, les décrets d'application ne sont pas encore parus. Donc, on attend quand même qu'ils arrivent. On pourra vous répondre parfaitement, toutefois, les décrets d'application donnés par le gouvernement. Localement, depuis des années, Courbevoie s'emploie à développer et sécuriser la pratique du vélo. Dès 2006, les orientations et les règles ont été insérées dans le PLU afin d'adopter des règles d'urbanisme favorisant le partage de la voirie entre tous les modes de déplacement. Ça, c'était un élément fondateur. Alors, en 2014, pour aller rapidement quelques chiffres, il existe sur la ville 6,6 km de voies cyclables, hors boulevard circulaire, 600 points d'ancrage de vélo, représentant 1200 emplacements. Non, 600 points d'ancrage de deux roues, représentant 1200 emplacements de stationnement, soit 132 zones réparties dans tous les quartiers. Sinon, un certain nombre d'actions ponctuelles sont prises par la ville. On peut citer Quélibre avec la présence des associations de vélos. L'utilisation d'une cinquantaine de vélos comme véhicules de service, garde urbaine et police municipale. Stage de sécurité routière pour les enfants de 11 ans et plus réalisé par la police municipale. Projet autour du vélo qui concerne les enfants de 8 à 9 ans dans un objectif de santé, d'apprentissage des conduites motrices et d'utilisation d'un mode de déplacement doux pour l'environnement. Intégration dans le contrat de DSP parking d'une obligation de mise en place d'un service spécifique aux vélos de location, de prêt et d'abonnement, et puis des actions avec la communauté d'agglos Seine-Défense, par exemple l'octroi d'une aide maximum de 300 euros pour l'achat d'un deux roues électriques ou assistance électrique, et puis le plan vélo avec deux facteurs qu'on est en train de développer, et puis enfin localement, l'aménagement des quartiers apaisés, dont on parlait tout à l'heure, sera une ligne conductrice du mandat 2014-2020.
Je précise que le Val dispose également de vélos pour son personnel. Question suivante.
Quelle est la composition et la fréquence des réunions de la commission des attributions de places en crèche?
Madame Taquilla.
Monsieur Elie, vous posez une question importante, un sujet sur lequel je me suis penchée depuis ma prise de fonction. Je veux d'ailleurs rappeler à cette occasion la politique familiale qui est au cœur de l'engagement de Monsieur le maire. Courbevoie est la première commune de Haute-Seine la mieux dotée en termes de berceaux. Plus de 2100 berceaux, des places de crèche à la fois municipales et privées. Et à cela s'ajoutent les allocations municipales de garde d'enfants, dont 715 familles courbevoisiennes ont bénéficié sur l'année 2013. Alors sur cette question, j'ai entamé très rapidement une phase de consultation. J'accorde beaucoup d'importance à la concertation des acteurs du secteur. J'ai rencontré la semaine dernière la PMI, le docteur Ojar, l'ensemble des directrices de crèches, à la fois municipales et privées, pour recueillir leurs avis sur les modifications possibles à apporter sur le fonctionnement des commissions d'attribution. Il faut aussi aller vite car les familles attendent. Et suite à cette consultation, je mettrai donc en place dès le mois de mai une commission élargie en présence donc de la directrice de la petite enfance, de la coordinatrice des structures d'accueil, et j'associerai toutes les directrices de place de structures d'enfants, des structures d'accueil des jeunes enfants, à la fois municipales et privées. Nous ferons des commissions par quartier. Voilà, car je pense que les directrices de crèche sont des professionnels de la petite enfance. Elles ont une expertise à apporter au sein de cette commission pour statuer et veiller à la mixité dans les crèches. Donc une commission donc élargie avec des professionnels qui assurent une transparence sur l'attribution des places de crèche. Voilà, et lorsque au cours de l'année des places se libéreront, la commission statuera de nouveau pour proposer la place aux familles en liste d'attente.
Je vous remercie, le conseil est terminé. C'est en rapport avec cette question?
Non. Une question que je fais, franchement, dans la continuité, mais ma question, c'est pas celle-ci. C'est les marchés, en règle générale, nous avons tout ce qui relève des marchés, notamment en fin de les décisions, et il n'y a pas eu de boursier municipal depuis quand même plusieurs semaines, il n'y en a pas du tout. Alors, est-ce que ça, tout ceci, vous allez pouvoir les amener lors du boursier municipal?
Je me suis posé la même question,
mais
Pour vous donner la réponse juridique à cette question, c'est essentiel. En 2008, le Conseil a accordé une délégation au maire au titre de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales pour prendre des décisions dans différents domaines pour alléger et raccourcir le délai de traitement des affaires. Donc on parle du dernier mandat ou début du mandat de 2008. Ce Cependant, nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un nouveau conseil municipal, avec en grande partie de nouveaux élus, lesquels n'ont pas accordé la délégation de 2008 au maire et n'ont pas un droit à contrôler les décisions du maire prises entre le dernier conseil municipal, celui du 16 décembre 2013, et la fin du mandat. Cette délégation s'est estompée avec la fin de la mandature. C'est pour cette raison qu'une nouvelle délégation au maire pour le mandat à venir a été présentée en début de séance. Vous aurez donc les décisions prises depuis le début de ce mandat lors du prochain conseil municipal.
En 4 mois, là.
D'accord. Une autre question.
Le
conseil d'école.
Les attributions des délégués en conseil d'école seront présentées lors du prochain conseil municipal.
D'accord, parce que ça figurait dans la politique.
Non, ça.
Et enfin.
Il n'y aura pas de conseil d'école pendant les vacances.
D'accord,
de toute façon, ça n'a pas d'influence. Ils seront présentés au prochain conseil d'école.
Par rapport au mouvement de ce conseil, lorsqu'il y a des délibérations qui suivent un ordre, il n'est pas normal qu'on le change comme ça a été fait. Parce que du coup, nous ne pouvons pas suivre. Et nous n'avons pas les mêmes capacités de préparation que nous avons. Ça, c'est la première chose.
Nous n'avons pas changé lors des délibérations.
Par rapport à ce que nous avons reçu, par rapport à ce que nous avons reçu, oui.
Ça avait à voir avec les contraintes de vote.
D'accord. Mais peu importe la raison. Là, vous invoquez la raison. Moi, je vous parle du résultat. Le résultat, lui, c'est que
on va devoir aller
d'un dossier. Non, ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Dans les assemblées, on ne fait pas ça. La dernière chose. On a pu constater qu'effectivement, le maire est amené à s'éclipser. Je pense qu'il aurait été le minimum, c'est juste de le dire et d'expliquer, pas de motiver, mais en tous les cas, de préciser que donc la présidence vous était confiée, c'est une règle de savoir vivre qui se fait dans toutes les assemblées, quelles qu'elles soient, pour en témoigner là. Voilà, merci.
Le conseil est terminé, merci.